Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Pauline Desroulettes est restée avec nous. Elle a été percutée le 27 octobre 2018 par un automobiliste de 92 ans et elle en garde des séquelles extrêmement importantes. On va parler de la possibilité d'un examen médical obligatoire. On est avec Jacques. Bonjour Jacques, vous avez quel âge ?
48 ans.
48 ans. Vous êtes pour un examen médical poussé au-delà d'un certain âge ?
Oui, je suis pour, ou une amélioration de la loi.
On va en parler évidemment assez longuement. Le rappel des titres avec Amandine.
Et à la une, cette attaque au couteau contre des policiers, c'était tôt ce matin à Cannes. Pour l'instant, le parquet antiterroriste n'est pas saisi. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu sur place. Il indique que l'homme soupçonné de s'en être pris à ces policiers n'a aucun casier judiciaire, n'est inscrit dans aucun fichier de radicalisation. Un individu âgé entre 35 et 40 ans qui disposait d'un passeport algérien et qui était visiblement en règle sur le territoire national. L'actualité, c'est aussi bien sûr la campagne électorale et à moins d'un mois maintenant du vote des militants LR. Premier débat entre les 5 candidats, c'est ce soir sur RTL.fr et LCI à suivre dès 20h40. Notre météo avec vous, Louis Baudin. Dans l'ensemble, on a droit à un beau soleil.
Hein. Ah oui, plus que prévu même. Hein. Les nuages bas, les brouillards ont tendance à se lever assez rapidement. Du coup, cet après-midi, on peut prévoir du soleil quasiment partout. La joie sur les images satellites. Bon, quelques nuages persistent en Lorraine, par exemple, ou encore en Champagne. Mais là aussi, on pourra espérer quelques belles éclaircies cet après-midi. Il restera un peu d'instabilité sur la Corse, avec là un risque d'averse. Et puis un peu plus de nuages également sur la pointe bretonne. Attention au vent qui va souffler fort autour du golfe du Lion, puisqu'on atteindra les 100 km/h. C'est du Mistral et de la Tramontane. Et puis les températures, elles baissent. Hein. Elles sont dans des niveaux de saison. 8 à 11 degrés seulement dans le nord-est, 10 à 14 degrés dans toutes les autres régions, et parfois 16 à 20 degrés quand même près de la Méditerranée.
Et ça va être comme ça toute la semaine.
Ah,
bonne nouvelle. J'adore.
Voilà, effectivement, on va avoir toute la semaine des conditions anticycloniques, donc du temps froid, quelques brumes, brouillards le matin, mais l'après-midi, on pourra espérer de belles éclaircies, sauf tout près de la Méditerranée. Hein. C'est là où on aura de l'instabilité, notamment entre mercredi et jeudi. Et puis, il fera de plus en plus froid. En fin de semaine, les gelées seront fréquentes, mais enfin, c'est un peu de saison. Et puis, ça veut dire surtout que le ciel sera dégagé s'il y a des gelées le matin, donc c'est plutôt bon signe. Et puis, l'après-midi, on aura parfois du mal à dépasser les 10 degrés dans la moitié nord et 15 degrés dans le sud.
D'autant qu'il y a un pont qui arrive, puisque c'est jeudi 11 novembre, donc peut-être que vendredi.
C'est pas un vrai
12.
Pont, les enfants vont à l'école.
Donc non. C'est un petit pont.
C'est un petit pont
qui arrive.
Ouais,
merci, chers amis. Merci, il est 13h04.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Faut-il instaurer un examen médical pour les personnes de plus de 65 ans ? 75% des Français sont favorables selon une enquête que RTL vous dévoilait ce matin. Faut-il changer les règles ? Mettre en place un permis senior ? Un examen obligatoire peut-il changer les choses ? On est avec Pauline Desroulettes et je la remercie grandement. Elle intervient régulièrement sur ce sujet et on suit votre histoire, fut-elle dramatique, depuis ce 27 octobre 2018. Et nous sommes avec Jacques, qui est gérant d'auto-école. Jacques, c'est un avis de spécialiste que vous avez.
Oui, mais parce que je le vis tous les jours. Et je pense qu'il y a déjà une législation. Alors, faut-il la renforcer ? Oui, parce qu'il nous arrive d'avoir des personnes... pas à l'auto-école de plus de 65 ans, c'est rare, mais même de moins. Et ces personnes devraient passer en visite médicale. C'est nous qui devons nous battre pour cela. Et oui, il y a des médecins agréés. Bon, j'en ai entendu un parler tout à l'heure sur l'antenne qui semblait très bien faire son boulot. Mais il y a aussi des médecins agréés où c'est... Voilà, il y a des choses à faire à ce niveau-là.
Et les critères, agréés. Pour être précis, parce qu'on a toujours besoin d'exemples. Selon vous, le gérant d'auto-école que vous êtes, quels sont les deux ou trois points que vous devez vérifier en priorité ?
Vérifier si vraiment la personne a la coordination au niveau
mais la vue peut-être en premier.
La vue, oui, mais la vue n'est pas suffisante. Vous pouvez avoir une
très bonne vue.
L'appréciation des distances de sécurité, déjà, on dit long sur la vue,
oui.
Effectivement.
Oui, sur la vue.
Parce qu'il y a des gens, après 80-85 ans, qui ne voient plus rien.
Qui voient plus rien. Mais vous avez des gens assez jeunes qui, d'ailleurs, certains inspecteurs en examen, sont obligés de leur demander de dire des plaques d'immatriculation ou autre chose. Ils ne voient plus. Donc, la vue est une chose importante.
Donc, la vue. Deuxième chose.
La coordination, effectivement.
Et comment on la mesure, la coordination ?
Je pense qu'il y a des tests à faire, peut-être un peu plus poussés dans les tests psychotechniques. Alors, ça devient plus cher quand on demande aux gens d'aller faire des tests psychotechniques. Certains ne veulent pas, bien sûr, c'est très cher.
Peut-être tester aussi des situations de freinage d'urgence pour voir le temps de réaction. On peut parler aussi de réflexes, de bons ou de mauvais.
Mais de ça, on le fait comment, dans quelles conditions? Vous vous rendez compte, tester d'urgence, vous allez faire passer tous les gens de 65, 70 ans. Comment on fait, concrètement?
Eh ben, on repasse son permis, comme l'examen qu'on fait pour avoir son permis de conduire. Et effectivement, il faut que des moniteurs jugent vraiment l'aptitude même de la personne. Alors, j'ai pas tous les critères.
S'il faut repasser le permis ou le code, ou les deux, vous
Non, on parle vraiment d'aptitude propre. Le code de la route, c'est un autre sujet. Bien sûr, il y aurait beaucoup à dire dessus, mais là, vraiment, c'est l'aptitude de la personne.
Donc, on repasse le permis.
On repasse un examen en situation réelle de conduite où on est jugé sur vraiment nos réflexes, notre temps de réaction, voir si on est capable d'être en situation de conduite.
Ça va pas être coton à mettre en place. Vous convenez que les gens qui nous écoutent, qui ont un certain âge, si vous leur dites qu'ils vont repasser le permis de conduire, vous allez pas faire, c'est pas très... Je comprends que les hommes politiques soient réticents parce que c'est pas très électoral.
Oui, mais vous savez, moi, le conducteur qui m'a fauché, hein, je reparle de lui et des autres responsables d'accident, parce qu'on en parle moins, je pense qu'ils auraient préféré passer une visite médicale plutôt que d'être responsable et d'avoir sur la conscience des blessés et des morts.
Eh bien, cet argument, évidemment, il est très, très fort et très puissant. Et c'est pourquoi on est ensemble. Et notamment, j'invite vraiment ceux qui sont directement concernés, qui ont plus de 70, 75 ans, à nous appeler. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Examen médical obligatoire pour les seniors au volant. Samuel, bonjour.
Oui, bonjour.
Samuel, vous avez quel âge?
J'ai 78 ans. Alors, deux choses. Il y a des jeunes qui, par exemple, prennent certains médicaments qui peuvent provoquer la somnolence. Alors ça, c'est leur toubib qui devrait peut-être leur dire de ne pas conduire. Bon, premier chapitre. Deuxième, puisque ça me concerne, j'ai 78 ans, j'estimais il y a fort longtemps qu'à partir de 65 ans, il faudrait passer la première fois une simple visite médicale avec des tests que le toubib fait habituellement. Et ensuite, à 70 ans, et après tous les 2-3 ans, aller dans un centre où il y aurait une conduite simulée, ou par exemple, de ce coup, il y a un chien qui traverse, savoir si on a le réflexe de freiner, ou alors on arrive, il y a une caravane, alors on est là, il y a une ligne droite, et puis par exemple, on voit des papis qui restent collés à la caravane.
J'ai peur que vous sacrifiez quelques chiens, si vous me permettez la SPA, vous n'allez pas être d'accord, parce qu'il y aura... Je prends un peu de légèreté sur un sujet comme celui-là, mais par exemple, Pauline disait repasser le permis de conduire, qui est, alors pour le coup, drastique. Et radical.
C'est un examen en situation de...
Bien sûr, mais c'est radical comme mesure. Oui. Vous êtes pour ou contre? Oui.
Repasser le permis de conduire complet, ça me paraît
pas
ridicule.
Pas complet. Le code, on le garde, mais vous faites un examen de conduite comme...
Une heure dans la voiture avec un moniteur qui nous observe.
Là, c'est radical. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai opposé à Pauline en lui disant, attention, c'est pas électoraliste. Mais elle dit très justement, si on veut sauver des vies, pourquoi pas?
Oui. Non, mais elle a raison, mais qu'à moitié.
Bah donc, je vous pose la question. Vous?
Bon, alors, admettons. À 8h du matin, je monte dans un véhicule. Tout le monde est déjà parti au boulot. Donc, il y a une circulation qui est réduite. Et puis, tout se passe bien. Voilà, je me balade avec ma voiture. Tout se passe bien. On dit, bon, ça va, monsieur. Vous pouvez continuer à conduire. Mais c'est pas ça. Il faut mettre les gens en situation de danger, quelquefois. Savoir si on peut doubler. Si on a la distance nécessaire pour doubler, mais ça c'est pas seulement quand on va repasser le permis de conduire, parce que ça peut très bien se passer, mais il faudrait que ce soit une conduite simulée, comme ça se fait pour les gens qui commencent à apprendre à piloter des avions. Bon, et puis qu'il y ait des situations, des fois,
on dit la même chose, monsieur. Je pense que dans l'examen qu'on repasserait, vu qu'on juge l'attitude d'une personne à conduire, effectivement on le mettrait dans une situation où il doit faire preuve d'un temps de réaction. Et voilà, moi je vous rejoins sur la nature de ce test qui serait assez particulier.
Oui, merci. Mais alors, à ce moment-là, il faudrait qu'il y ait plusieurs personnes, que par exemple il y en a un, et qui d'un seul coup il coupe la route à l'autre, savoir la réaction, c'est pas possible. Parce que
Samuel,
dans le moment.
Ce qui m'intéresse, c'est vous. Est-ce que vous avez le sentiment? Vous conduisez depuis combien de temps, Samuel?
Depuis que je suis sorti de l'armée, depuis l'âge de 20 ans.
20 ans. Donc, comme vous en avez 78, en gros, ça fait depuis 60 ans. Est-ce que, sur les 5 dernières années, vous avez failli avoir un accident parce que vos réflexes ou parce que votre l'âge qui avançait faisait que vous étiez moins performant?
Moi, je me sens pas du tout moins performant, mais pas du tout. Mais je disais tout à l'heure...
C'est jamais arrivé. Hein, depuis 5 ans, sur les 5 dernières années, vous n'avez pas le sentiment d'avoir évité un accident parce que vous n'aviez pas le bon réflexe ou...
Ah ben non, c'était plutôt le contraire. Éviter parce que j'avais le bon réflexe, ça c'est autre chose. Mais je disais que lorsqu'on vieillit, on ne se rend pas compte qu'on vieillit. On croit toujours qu'on a 20 ans. Alors moi, je monte encore sur le toit de ma maison. Et alors, il y a mes enfants qui disent « Oh, plus que tu montes !» Mais je monte quand même, quand il y a quelque chose à voir là-haut.
Si vous montez sur le toit de votre maison à 78 ans, effectivement, là, il faut que vous soyez prudent, Samuel.
Oui, mais moi, je vois des jeunes dans la rue qui ont 45 ans, ils sont beaucoup moins valides que moi. Moi, je les bats à la course à pied, ça, c'est vrai.
Mais c'est là où je vous rejoins aussi. Je pense que l'aptitude n'a pas d'âge, on n'est pas tous égaux là-dessus.
Bon, merci en tout cas Samuel, et puis il y a cet accent de Lyon qu'on adore tellement sur l'antenne.
Non, vous faites honte, j'ai pas l'accent de Lyon.
C'est l'accent.
Moi j'habite Lyon depuis fort longtemps, c'est déjà presque 60 ans, et je suis des Hautes-Alpes.
Oui, mais alors c'est l'accent un peu d'Aimé Jacquet, c'est merveilleux. C'est merveilleux de vous écouter.
C'est un peu mélangé comme accent, quoi, mais bon.
C'est mélangé Bernard Lacombe aussi, les Lyonnais célèbres que j'ai connus en tout cas, parce qu'ils étaient dans le sport. Merci Samuel.
Allez,
c'est l'accent de Saint-Chamond également. L'accent de Saint-Chamond.
Ben oui, mais ça aussi, on me le dit, parce que mon accent, il s'est malheureusement dégradé.
Mais oui, il n'y en a plus d'accent aujourd'hui.
Pardon ?
Il n'y en a plus. Les gosses et les jeunes, ils n'ont plus d'accent aujourd'hui, hélas.
C'est bien. Oui, c'est bien. Mais vous avez des gens comme dans le Saône-et-Loire où ils avaient un accent abominable en roulant les airs. Mais maintenant, plus personne ne roule les airs, enfin. Ou dans les Pyrénées, là-bas, c'était pareil, ils parlaient comme ça.
En tout cas, perdez pas votre sens de l'humour.
Bon, merci Samuel, c'était vraiment un plaisir de vous avoir. Vraiment un plaisir. On va être avec Elisabeth dans une seconde. Elisabeth, elle a 85 ans, je crois. Et elle ne conduit plus. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.
Des New Morricone, le clan des Siciliens. Il a 86 ans aujourd'hui, Alain Delon. L'accident génétique, la beauté d'Alain Delon. Personne n'est plus beau que lui sur la Terre. C'est fou, hein ? Eh bien, vous pourrez témoigner tout à l'heure, lui rendre hommage, pourquoi pas. On pourra également parler de Thomas Soto. Qu'est-ce que vous en pensez ? Thomas Soto, qu'on connaît bien et qu'on apprécie beaucoup à RTL. Il ne présentera plus une émission politique parce qu'il est en relation amoureuse avec la conseillère en communication du Premier ministre, Jean Castex. On pourra parler également des évêques catholiques réunis à Lourdes qui devaient annoncer des gestes et un échéancier. Mais visiblement, ce n'est pas aussi clair que ça. Pour le moment, on est avec Elisabeth. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Pascal.
J'ai dit que vous aviez plus de 80 ans. Oui, pardonnez-moi, c'est inadmissible. Vous avez 72 ans.
Oui. Et ma fille m'a enlevé mon permis de conduire.
Mais de quoi elle se mêle, votre fille? Pourquoi elle a fait ça?
Parce qu'elle a raison.
Mais pourquoi elle a raison?
Parce que j'ai une maladie assez difficile et il peut m'arriver de sortir avec de l'oxygène. Donc elle m'a dit, maman, c'est non. Et puis ça a été non. Mais il y avait une jeune femme qui m'avait terriblement émue il y a 3 ans avec un vieux monsieur qui était rentré dans un abribus.
Mais c'est peut-être Pauline qui est avec nous aujourd'hui, qui est sur notre plateau.
Oui, voilà.
Elle est dans notre studio, Pauline. Vous allez pouvoir lui parler parce qu'elle elle vous écoute et elle nous accompagne dans cette demi-heure. Pauline.
Alors,
bonjour madame.
Bonjour, je peux vous dire une chose, ma fille a raison de m'avoir supprimé, enfin pas mon permis de conduire, mais de m'avoir enlevé ma voiture. Et votre exemple devrait servir pour tout. Parce que c'est tellement les vieux, effectivement, ne peuvent plus conduire pour certaines choses, pas pour tout, hein, mais ils n'ont pas la perception, vous savez, des yeux. La nuit, ils n'ont pas les réflexes. Et j'ai une de mes filles qui habite la Suisse, et je peux vous dire qu'en Suisse, c'est fait régulièrement.
Oui, ils repassent des tests, effectivement.
Voilà, ils repassent des tests. Il n'y a pas besoin d'avoir une énorme organisation. On fait le test du réflexe, je crois. de la luminosité, et puis je ne sais plus lequel autre. Mais ça, il faudrait que ce soit fait, et vite, je trouve.
Écoutez, c'est là tout mon combat, effectivement. Alors, sans opposer, parce que je l'entends souvent, les jeunes, entre guillemets, et les vieux.
Oui, bien sûr.
Ouais. Parce que, voilà, on dit souvent que les personnes qui boivent, par exemple, au volant, sont aussi dangereux que des personnes âgées. Néanmoins, la nuance, c'est que ces gens-là sont déjà en infraction. Aujourd'hui, moi, je parle avec des forces de police qui sont démunies quand ils arrêtent des personnes, pas forcément vieux, mais qui ne voient pas bien, tout simplement. Et ils ne peuvent rien faire, à part les dénoncer à la préfecture, mais ça aboutit rarement.
Malheureusement,
il suffirait d'une visite médicale, d'un test en situation réelle pour qu'on se rende compte et que ces mêmes personnes se rendent compte de leur capacité ou non. Et vous avez un discours tout à fait sage, mais malheureusement, tout le monde n'est pas capable d'avoir un auto-recul. C'est difficile d'avoir un recul sur soi-même et se dire j'arrête de conduire.
Mais je vais vous dire, j'ai beaucoup de mes amis qui commencent à l'avoir sur cul, et je vais vous dire, c'est pas pour vous faire des compliments, mais c'est souvent à cause de vous. Parce que, non mais c'est vrai, il faut, vous savez, il faut toujours quelqu'un qui donne un exemple. Le vôtre est dramatique, mais vous êtes ravissante, jolie, et vous en parlez bien. Donc il faut vous servir de votre atout, entre guillemets, bien sûr, entre guillemets, et forcer les gens à effectivement faire ce test.
Écoutez, merci, mais derrière mon visage, il y a toutes les autres victimes aussi qui m'écrivent et qui n'ont pas la force aussi de lutter et pour elles. Et je pense aussi aux responsables d'accident, parce que moi j'ai eu un échange avec le conducteur qui m'a fauché. Et je peux vous dire que j'aimerais pas être à sa place, et que ce monsieur, s'il y avait une loi, il l'aurait respectée, parce que c'était quelqu'un qui respectait la loi. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans son cas et qui voudraient ne pas arriver à un malheureux accident pour s'en rendre compte.
Ce conducteur, il a 95 ans aujourd'hui.
Oui.
Il ne conduit plus, j'imagine.
Non, il fait plus grand chose, malheureusement. Le pauvre, sa fin de vie va être douloureuse aussi. Et ça, c'est important de le rappeler.
Merci Elisabeth, vraiment merci.
Merci beaucoup Elisabeth.
Vraiment merci beaucoup. Il est 14h23, Christian est avec nous. Bonjour Christian, qui habite dans l'Essonne.
Bonjour Pascal.
Je dis votre âge, parce que c'est important.
Oui.
Vous avez 69 ans.
Et demi.
69 ans et demi, c'est les enfants qui disent ça, j'ai 10 ans et demi.
Non mais ça compte.
Ah oui, chez les enfants, oui, chez les adultes et les seniors, je pensais que ça comptait un peu moins, mais manifestement non.
Ah ça compte à partir de 69 ans et demi, parce que dans 6 mois, on passe un gros cap. Et tous mes amis sont comme moi, à 70, on a un coup sur la tête.
Ah bon ? Moi j'ai l'impression que le coup je vais déjà l'avoir à 60, c'est curieux, mais bon, c'est chaque dizaine en fait on prend un coup.
Oui, vous savez, moi j'ai eu un coup à 30 ans parce que j'étais footballeur, et à 30 ans je savais que c'était, il ne me restait plus de beaucoup d'années pour jouer au plus haut niveau.
Et vous étiez footballeur professionnel ?
Non. J'ai joué en division d'honneur, mais ma carrière footballistique était foutue.
Bon, Christian, aujourd'hui, quel est votre sentiment et votre avis sur cette possibilité et cette injonction de Pauline de passer un examen médical obligatoire ?
Je suis un petit peu nuancé, parce que tout ce qui a été dit avant, c'est totalement justifié. Par contre, j'aurais voulu savoir si, parce que c'est moi qui vais vous poser une question, si cette décision est prise suite à des statistiques, parce que je conduis encore énormément, je me fais suivre par mes médecins pour tout, j'ai pas mal de réflexes, 69 ans et demi, c'est pas trop vieux encore.
Mais du coup, si vous repassez un test, vous ne serez pas inquiété, puisque vous êtes capable.
Non, mais c'est pour ça que je suis nuancé. Alors, premièrement, j'aurais voulu savoir quelles sont les statistiques. Deuxièmement, j'aurais voulu savoir s'il faudrait payer. Parce que même si c'est une petite somme, je pense qu'il y a des gens comme moi qui pourront payer. Mais il y a d'autres personnes qui ne pourront pas payer. Donc j'aurais voulu savoir si c'est pris en charge par l'État. Et puis effectivement, à partir de ce moment-là...
Non, mais c'est une question importante.
Je vous remercie de la poser, cette question.
Elle est importante,
je vais d'abord répondre aux chiffres. Alors les chiffres, ils disent qu'il y a peu moins d'accidents où sont impliquées des personnes âgées. Mais si on fait le calcul, proportionnellement parlant, il y a plus d'une population de 18 à 50 ans qui roule, donc forcément le risque est plus élevé. Et j'ai envie de vous dire, même s'il n'y a que 10%, 10% c'est déjà trop, et je fais moi-même partie de ces 10% de victimes. Et pour la deuxième question, qui était de qui va payer, alors moi j'ai pas toutes les réponses parce que je ne travaille pas encore au gouvernement, mais moi ce que j'ai proposé au département de la sécurité routière, ça serait que le conducteur prenne en charge la visite médicale, qui serait de l'ordre d'une consultation classique, parce que c'est important, ça responsabilise le conducteur,
c'est 25
et aussi
euros.
Parce que on paye déjà notre contrôle technique de notre véhicule, et l'idée c'est de faire la même chose sur notre personne.
Est-ce que c'est une...
Si c'est 25 euros, oui, il n'y a pas de
problème. Je crois que c'est ça. Hein. Aujourd'hui, si vous allez chez le médecin...
Je crois que c'est 23 euros.
Voilà, exactement, c'est 23 euros. Bon, après, il faut savoir, effectivement, le test, jusqu'où va le test. Tout à l'heure, Pauline disait repasser l'examen du permis de conduire. C'est-à-dire que vous êtes dans une voiture pendant une heure, et puis vous avez un examinateur qui voit, comme si vous aviez 25 ans, si vous êtes apte à conduire une voiture.
Ça, c'est sous réserve que le médecin en juge... ou pas. C'est-à-dire qu'une visite médicale peut suffire. Si la compétence du médecin ne suffit pas, on est renvoyé dans une auto-école.
Christian, vous disiez que vous conduisiez encore beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire que vous faites beaucoup de kilomètres. Pourquoi ?
Maintenant, je conduis tous les jours, mais parce que j'habite assez loin des commerces et tout, donc je fais beaucoup moins de kilomètres. Je faisais entre 60 000 et 100 000 kilomètres par an quand je travaillais.
Ah oui, c'est beaucoup. Sans jamais un problème ?
Eh ben, j'ai eu un accident une seule fois sur une route de campagne. J'étais tout seul et je me suis enroulé sur un poteau électrique qui était de l'autre côté de la voiture, de l'autre côté de la route par rapport au sens où j'allais. Et je n'ai toujours pas compris pourquoi. Je me suis retrouvé à l'hôpital. J'ai eu un accident depuis que je conduis, c'est-à-dire depuis 50 ans, quoi.
Merci beaucoup, Christian. Merci. On va poursuivre et conclure parce que nous avons encore un ou deux auditeurs qui nous appellent et nous avons notamment Colette qui a 89 ans et qui conduit encore. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. Participez au débat en appelant le 3210.
50 centimes la minute.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Nous sommes donc avec Colette. Bonjour Colette. Colette.
Colette, la pub est.
Allô ? Oui Colette.
Oui, voilà, c'est moi.
Bah oui, mais Colette, après la pub est finie. Comment oui, ça va Colette ?
Et alors, qu'est-ce qu'il faut que je vous dise ?
Bah, d'abord, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Colette, ça va ?
Oui, ça va, je vous remercie.
Bon, je peux dire votre âge ?
Oui, bah tout à fait, j'ai rien à cacher.
Bon, 89 ans, vous conduisez. Est-ce bien raisonnable pour vous et pour les autres ?
Bah oui, tout à fait. J'ai jamais eu de PV, j'ai jamais eu de point de retrait, j'ai jamais eu d'accident, je touche du bois. Je respecte le code de la route bien souvent, qui est beaucoup plus jeune que moi, qui ne respecte pas le code de la route. Et bien souvent, les accidents sont plus provoqués par des plus jeunes que par des plus vieux.
Bon, est-ce que votre vue a bougé ces dernières années ?
Ma vie ?
Non, votre vue. Vue,
ah,
VUE.
Ma vue. Ah, évidemment, sûrement. Hein. J'ai été opérée de la cataracte, mais ça va. Je vois comme elle m'a dit, l'ophtalmo, j'ai 9,5 sur 10.
Ah bon, bah, ça va. Donc là, la vue est bien. Est-ce que Louis, l'oreille est bonne ?
Un peu moins, parce que j'ai 89 ans, mais en principe, j'entends bien. Mais est-ce que c'est un rapport avec la conduite ? Parce que
il faut mieux entendre ce qui se passe quand même quand
mais
on conduit.
Il y a des gens qui sont sourds-muets, qui ont leur permis de conduire. Je suis désolée.
Oui, il y a aussi des poissons volants, mais ce n'est pas la majorité de l'espèce, comme dit l'autre.
Mais
il faut quand même être en forme. Alors, est-ce que vous trouvez que vos réflexes sont moins performants qu'il y a encore quelques mois ou quelques années ?
Pas du tout. Là, l'autre jour, il y a un camion qui n'a pas fait respecter le stop. Enfin, oui, il l'a peut-être respecté, j'en sais rien. Il est avancé, j'ai freiné à mort et je ne suis pas rentré dans le camion.
Bon, en tout cas, quand on vous écoute, vous n'avez pas la voix de quelqu'un qui a 89 ans. Vous
c'est
avez
ce
pas
que vous m'avez déjà dit une fois.
Bah oui, mais parce que c'est vrai, vous n'avez pas le rythme de voix non plus de quelqu'un qui est âgé. On a parlé comme quelqu'un de 35 ans. Donc moi, je vous connais plus.
Mais certainement que si vous passiez un test, vous seriez capable. Hein. Là, encore une fois, je ne veux rien dire. Il y a des personnes de votre âge, comme vous semblez l'être, qui sont en pleine forme. Colette, moi, tout ce que je peux vous dire, là encore, je vais prendre mon exemple. Le conducteur qui m'a fauché, c'était un conducteur exemplaire, comme vous, qui prenait toutes les précautions du monde quand il le fallait, à ne plus conduire de nuit, à faire des petits trajets. Malheureusement, on n'est jamais à l'abri. Pour ça que le test, que la visite médicale que je propose, ça ne dispenserait pas les gens capables comme vous, malgré votre âge, de continuer à conduire si vous êtes capable.
Ah ben moi, je me sens tout à fait capable de conduire. Je suis même capable. Bon, mais s'il faut vraiment obligatoirement passer un test, bon, je ne serais pas contre. Hein, si c'est la loi, je respecte la loi. Je respecte les règlements, tout, parce que je respecte tout ce qui est au niveau conduite. Je vous dis, jamais je brûlerai un stop, jamais je fais attention.
Bon, oui, mais ça se sent dans votre discours. Que
non,
vous
mais
êtes,
on sent que vous avez une énergie, par exemple, qui n'est pas fréquente. Mais je vais vous poser une question difficile. Pauline,
Colette.
Cet homme... Non, mais là, je vais parler à Pauline.
Ah, bah d'accord.
Voilà, je vais vous poser une question difficile. L'homme qui vous a percuté, s'il avait passé un test d'aptitude, il l'aurait eu ou pas ?
Je peux pas répondre à cette question, mais très franchement, ce monsieur n'était plus capable de conduire, oui, donc ça répond important. À votre question, oui. Et il donc, le savait, il avait d'ailleurs prévu d'arrêter.
Capable. D'accord, donc ça c'est vraiment important de le dire, d'où d'ailleurs votre combat.
Oui, et pour les autres, moi je le fais pour les autres, parce que c'est vraiment un sujet de sécurité routière nationale.
Colette, vous avez quoi comme voiture ?
Une Ford Fiesta.
D'accord, et combien de kilomètres vous faites par jour ? Par exemple, vous avez conduit ce matin ?
Non, ce matin, je suis pas sortie. J'habite en centre-ville. Je ne suis pas sortie ce matin, mais je me sens que je peux aller en Bretagne, je peux aller dans le Midi. Ça me dérange. Je peux prendre l'autoroute, ça ne me dérange pas du tout.
Toute seule dans ces cas-là, ou vous êtes avec un compagnon ?
J'ai un compagnon, mais mon compagnon est aveugle.
Donc effectivement, là, faut
il
mieux que ce
pas,
soit vous qui conduisez.
Il
ne
peut pas me dire si je peux tourner à droite ou tourner à gauche. Et je ne prends pas de, comment dirais-je, de GPS. Hein. Je fais mon itinéraire avec le guide Michelin et je suis très bien. Parce que je trouve que regarder le GPS en même temps que conduire, c'est un petit peu... je sais pas, moi je suis...
Mais vous habitez où, Colette ?
J'habite dans l'Allier, à côté de Vichy, à Cusset.
D'accord, donc quand vous allez dans le Midi, vous avez 500 km d'un coup.
Ah bah oui, je vais même en Bretagne, je prends l'autoroute à la sortie de Vichy, il y a une autoroute qui va directement, c'est direct. Hein.
Vichy pour aller jusqu'à Saint-Malo, c'est plus de 800 km, mais vous faites ça en une fois ou vous...
Oh ouais, bah je m'arrête deux, trois fois, tous les 150, tous les 200 km, ça dépend parce que sur les autoroutes, il y a des fois vous pouvez faire plus de 200 km sans trouver une aire d'autoroute. Hein. Mais enfin bon, en principe,
non,
je m'arrête.
Non mais Colette, c'est vrai qu'à vous écouter, on est quand même stupéfait de votre rapidité intellectuelle, de votre vivacité, de votre énergie. Tout le monde à 89 ans n'est pas dans cet état-là, si vous me permettez.
Bah, oui, mais il faut dire que je vois beaucoup de jeunes, enfin plus jeunes que moi, qui conduisent très mal. Ils doivent sur les bandes blanches, ils sont en plein virage.
Ah, mais ça n'empêchera jamais certains conducteurs de faire des bêtises, Colette. C'est pas ce qu'on est en train de dire. En tout cas, ce que je retiens de votre intervention, c'est que vous seriez prête à repasser un test sans problème, puisque vous sentez capable.
Ah tout à fait, oui, moi ça ne va pas me déranger. Mais par contre,
merci,
repasser
Colette.
Un permis de conduire, ça va être difficile parce que les jeunes ne peuvent déjà pas passer parce que les autoroutes sont... Enfin, les auto-écoles, pardon, sont complètes. C'est difficile de passer un permis de conduire. Alors, s'il faut repasser le permis, le temps que j'attende, je serai peut-être morte. Hein.
Non, vous êtes... croyez-moi, vous savez qu'on meurt quand on a... Quand la mission sur Terre est terminée, vous, votre mission, elle n'est pas terminée sur Terre. On le sent, on le devine. Il y a des gens, voilà, je le vois bien. Bon, merci à vous, Colette. Je vais remercier grandement Pauline. Et c'est vrai que depuis 3 ans, on suit évidemment cette aventure. C'est dur, toujours ?
C'est toujours dur. Il y a des hauts et des bas, bien sûr. On ne va pas faire la forte. Après, ce projet de loi, c'est mon combat, c'est devenu une partie de ma vie. À côté, il y a le sport dans lequel je m'épanouis, puisque j'ai un objectif qui est celui d'être à Paris en 2024.
Exactement, et non seulement d'être à Paris, mais d'être sur le podium.
Oui, bah, l'important, c'est pas de participer, Pascal. Vous êtes d'accord avec ça ?
Écoutez, en tout cas, j'ai compris qu'avec vous, l'important, c'est pas de participer, que vous êtes une battante, une jeune femme qui aime gagner, qui aime les combats. Et c'est vrai, votre énergie, là aussi, elle est peu fréquente, sans doute. Parce que vous voyez d'autres personnes qui ont subi, comme vous, des accidents majeurs et ils n'ont sans doute pas la même énergie.
Oui, et je pense que c'est aussi pour eux que je le fais, parce que ça a le mérite, c'est un sujet dont on doit s'emparer. J'espère que la prochaine fois qu'on en reparlera, on aura avancé.
Merci Pauline, et puis à chaque fois que vous venez, on pense aussi à Tiphaine, votre compagne, et vraiment on vous embrasse.
Qui nous écoute.
Exactement, on l'embrasse à chaque fois, Tiphaine, et c'est important également de le dire puisqu'elle est avec vous depuis la première seconde. 13h38, la pause, on parle de Thomas Soto, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL. Claire. Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Mais oui, vous arrivez tard.
Mais me voici,
Mais
voilà.
Comment se fait-il que vous ne soyez pas venu plus tôt ?
Parce que nous écoutions les auditeurs, les auditrices et Pauline Deroulette. C'était très intéressant, très instructif.
Et plus tôt, c'est l'ami de Dingo.
Mais merci pour cette info pour briller. Vous êtes fan de Walt Disney, apparemment.
Oui.
Vous nous appelez aussi au standard et vous réagissez sur nos réseaux sociaux pour parler du journaliste Thomas Soto, que l'on connaît bien à RTL. Il présentait RTL Soir l'an dernier.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h. Voici les titres de ce dimanche soir.
Eh bien, il ne présentera pas l'émission politique Élysée 2022 de France 2. Il se met en retrait concernant ce programme en raison d'une relation amoureuse avec la conseillère en communication du Premier ministre Jean Castex. C'est une décision difficile, d'une certaine manière assez injuste, ce sont ces mots. Je me dois de tenir compte de notre époque devenue très violente. Qu'en pensez-vous? 3210, 3210 sur votre téléphone.
Eh bien, on va en parler avec Charles. Bonjour Charles, qui est enseignant.
Bonjour Pascal, tout à
Bonjour.
Fait.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Que pensez-vous de cela? Un journaliste ne peut pas faire son métier indépendamment de la relation amoureuse qu'il a avec quelqu'un?
Si, bien sûr que oui. Moi, je pense que c'est un faux problème. Parce que qu'il soit l'époux de quelqu'un...
Il n'est même pas
soit...
l'époux, hein, c'est une relation
enfin,
amoureuse.
Ils sont en couple, oui, voilà. Oui. Mais finalement, c'est pas le problème, puisque vous voyez, tous les journalistes...
Ça l'est, manifestement.
Oui, pour lui, mais
ben, c'est pas pour lui, je pense qu'il voudrait pas. Hein, c'est
alors,
c'est le climat autour de lui, si j'ose dire.
Alors, bah écoutez, si vous me posez la question, moi ce que je pense, c'est que tous les journalistes sont orientés politiquement et idéologiquement. Mmh. Voilà, que ce soit des chroniqueurs ou des journalistes, on perçoit leur opinion, on perçoit leur positionnement politique. Et ça ne gêne en rien, finalement, l'exercice.
Thomas Soto, vous perceviez un positionnement politique chez Thomas Soto?
Non, mais même pas. Non, justement, il y en a qui le... Non, mais il y en a qui l'affichent plus ou moins. Mais c'était encore moins le cas en ce qui le concerne. Vous voyez, je vais vous prendre un exemple. Jean-Michel Apathy, c'est pas l'époux d'Anne Hidalgo, et pourtant c'est un militant politique à chaque prise de parole.
Il n'est pas militant, mais il penche un peu à gauche, et puis
oui,
moi, on pourra dire que je suis un peu conservateur aussi. Donc,
un peu.
Mais un peu, oui, mais pourquoi pas? À la limite, pourquoi pas si c'est avoué?
Mais voilà, mais c'est ce que je suis en
train... Il y a d'autres qui sont plutôt... Et puis vous savez, parfois on peut être de droite sur tel sujet,
écoutez,
et puis de gauche sur d'autres.
C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire, toute personne a une orientation idéologique
et politique.
Mais
c'est pas la question. Notre question, c'est est-ce que ça vous choque, vous, par exemple, qu'il ne présente plus l'émission? C'est ça
qui est intéressant. Moi, ça me choque. Oui, ça me choque parce que... Enfin, ça me choque. C'est un grand mot, choqué. Mais en tous les cas, je trouve pas ça normal. Parce que de toute façon, ça ne change en rien, finalement, la façon dont il mènera les débats. Et surtout, lui, qui, a priori, n'est pas quelqu'un qui affiche, de façon évidente, en fait, ses opinions politiques, donc, ou son orientation politique ou idéologique. Donc je trouve que c'est pas une bonne décision et ce genre de décision ça ne devrait pas avoir lieu. Après vous savez il y a d'autres personnes qui animent des débats ou qui font des émissions politiques et dont on sait pertinemment quelle est leur orientation politique dès le départ. Moi je suis désolé mais quand je vois l'émission politique de Léa Salamé et Monsieur Ruquier, moi je trouve que c'est un vrai scandale. Parce que
c'est pas une émission politique, c'est une émission.
Oui, enfin, c'est pas
une émission politique.
Oui, d'accord. Mais enfin, la façon dont ils font passer les... dont ils interrogent comme ça, pour moi, c'est très orienté politiquement. Ça saute aux yeux de tout le monde. Personne n'est dupe. Donc, voilà.
Parce que vous trouvez que Laurent Ruquier est trop à droite, par exemple, c'est ça?
Vous trouvez?
Mais non, mais Laurent, je dis ça avec légèreté et humour. Mais là, c'est, comment dire, moi, on me fait parfois le reproche d'être un peu conservateur. Et Laurent lui fait sans doute le reproche d'être un peu progressiste. Bon, tout ça n'est pas très grave. Vous voyez ce que je veux dire?
Ah, mais non, mais c'est bien ce que je vous dis. C'est-à-dire, ce n'est pas
ce
grave.
Ce qu'il faut, c'est l'honnêteté. Je veux dire, l'objectivité, c'est une tarte à la crème. Ça n'existe pas. Il faut l'honnêteté intellectuelle. C'est ça qui est le plus important. Merci Charles, en tout cas. Laurent est avec nous sur Thomas Soto. Ah, pause. Pause.
Tout à fait.
Je vous ai même pas salué.
Non, non plus.
Aujourd'hui.
Non
je
plus.
Crois que j'ai même pas salué monsieur.
Non plus.
J'allais dire monsieur.
Vous aviez salué personne, Pascal.
Monsieur Guillaume.
Ah. Monsieur
Olivier.
Guillaume.
C'est Olivier.
Monsieur Olivier.
Monsieur Olivier, oui, pas monsieur Guillaume.
Oui, non, monsieur. Parce que j'ai fait une contraction entre Olivier Guinec et.
Mais faites-en, pas de souci.
Guinec. Dites-moi, c'est lundi.
Mm-hmm.
C'est lundi.
Dites-moi, Pascal.
Mal parti. C'est lundi. Vous connaissez Jesse Garon?
Bien
bon,
sûr.
Eh bien, le lundi, on attend évidemment ce qui s'est passé le samedi et le dimanche avec vous.
Je vous le dirai tout à l'heure, non?
Mais bien sûr, je l'espère. Et puis, notre ami Jean-Alphonse est là également. On va parler tout à l'heure de l'heure du Grimm. Pour le moment, c'est Laurent Soto. À tout de suite.
Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
C'est la nuit. Only.
Ouais, Jessica Rome. C'est lundi. Souvent, on la passe. On la passait
très régulièrement.
Mal dormi. Tadam dans mon lit. C'est lundi. Tap, tap.
Laurent Tessier. Ah, j'ai cru que Jean-Alphonse Richard allait se mettre à chanter. Mais j'attendais oui, un petit duo là.
Écoutez, on a un sujet léger qui est Thomas Soto. Il y a des sujets parfois plus graves.
Bon. Exactement. Et pouvez nous appeler évidemment sur Thomas Soto et sur d'autres sujets comme les vacances de la Toussaint qui sont terminées. Les élèves du primaire doivent porter le masque dans 61 départements. Se couvrir le nez et la bouche est redevenu obligatoire, par exemple, dans le Nord.
Avant les vacances, on n'avait pas de masque, c'était bien. Ouais. Mais là, en fait, tout le monde a repris le masque. Du coup, c'est un peu bizarre. Ça gêne un peu.
On a l'impression que c'est en arrière et ça revient en avant. C'est embêtant. Oui, je préfère l'enlever parce que déjà, on peut voir le visage des copines et des copains. Et en plus, on arrive mieux à respirer.
C'était quand même mieux sans masque. De toute façon, tant qu'on fait attention, il n'y a pas de raison de l'attraper.
Parole d'enfant avec notre correspondant Franck Hanson. Comprenez-vous cette décision? Vous êtes parents, comment vos enfants ont-ils réagi? Faut-il les laisser tranquilles? 32-10, 3-2-1-0.
Donc, on parle de la Thomas Soto. Alors on rappelle que Béatrice Schoenberg, épouse de Jean-Louis Borloo, avait cessé de présenter le journal de 20h sur France 2, c'était en 2007. Audrey Pulvar, alors en couple avec Arnaud Montebourg, s'était mise en retrait d'émission qu'elle présentait lorsque son compagnon était devenu ministre en 2012. Et Léa Salamé avait elle aussi cessé des interviews politiques lorsque son compagnon Raphaël Glucksmann était candidat à l'élection européenne 2019. Mais ce qui est drôle, c'est que Raphaël Glucksmann aujourd'hui, il est député européen. Il est député européen. Donc, on pourrait appliquer la jurisprudence Soto également à Léa Salamé. On n'en finit plus à ce moment-là, puisque Thomas Soto, lui, est avec une conseillère communication du Premier ministre. Nous sommes avec Laurent. Bonjour, Laurent.
Bonjour, monsieur Pro. Je vous salue, puisqu'il faut vous saluer. Vous n'avez salué personne, donc je me permets de vous saluer.
Je vous salue, vous, Marie.
Vos auditeurs.
Eh bien, écoutez, c'est gentil. Mais ce n'est pas vous qui êtes militaire, Laurent ?
Ancien.
Voilà, je reconnais votre voix l'autre jour. Vous disiez que ça filait doux chez vous. Ça filait doux.
Il faut des principes.
Ah bah,
justement pour y venir, vous en avez également, vous êtes journaliste, vous rencontrez de par votre activité, enfin je le souhaite, c'est un peu un fondement de votre activité de faire des rencontres multiples, de rencontrer énormément de gens, donc vous pouvez aussi avoir des affinités avec certaines personnes ou pas avec d'autres, mais vous faites votre métier avec objectivité.
Objectivité, j'aime pas ce terme-là, parce que je trouve que c'est une tarte à la crème, mais honnêteté, en tout cas, j'essaie.
Honnêteté vis-à-vis de vos Monsieur Pro, j'ai mes opinions politiques, vous avez vos opinions, vous n'en faites pas étalage. Dans votre métier, je n'en fais pas étalage, dans le mien non plus. Donc je pense que Monsieur Soto a fait preuve de clairvoyance, puisqu'il savait parfaitement à quoi il allait se retrouver exposé. Et je le déplore, je déplore l'état de fait. Parce qu'il savait parfaitement qu'il allait devoir faire face à une levée de bouclier, de la part, d'un terme que je déteste maintenant, mais qui est devenu très à la mode, de toute une bande de petits sachants qui allaient se déchaîner contre lui par les réseaux sociaux. Madame O'Krent était mariée avec un ministre, Madame Sinclair était mariée avec un ministre, mais ce qui était faisable il y a 30 ans, 40 ans, n'est malheureusement, je vais passer pour un vieux crétin, n'est malheureusement plus faisable aujourd'hui.
Non mais là, ça avait effectivement choqué à l'époque, puisqu'il y avait une interview célèbre de François Mitterrand qui était interrogé par Christine O'Krent et Anne Sinclair, épouses, leurs deux ministres étaient au gouvernement, donc c'était Kouchner et c'était Strauss-Kahn, donc là, ça se voyait un peu quand même. Donc effectivement, c'était assez étonnant, disons.
Mais
en même temps, tu peux faire ton métier. C'est ça qui est... Parce que ça s'arrête où ? Par exemple, si ton fils travaille avec Jean Castex et que tu es journaliste politique, tu ne fais pas non plus d'interview ? Et puis si c'est ton frère qui travaille avec Jean Castex, tu ne fais pas d'interview ? Vous voyez, je pense que c'est air de la suspicion. On pourrait imaginer qu'un homme ou une femme est indépendant de son mari, de ses amis, de sa famille pour mener une interview politique.
Et mener une carrière professionnelle. Si mon frère est le conseiller de Jean Castex, c'est pas pour ça que je vais pas l'inviter à déjeuner. Ou à
dîner. Non mais ça c'est autre chose. Et surtout dans la vie professionnelle, parce que c'est ce qui nous intéresse.
Mais on en arrive au même principe en fait. Si on mélange tout, si on commence à tout mélanger tous les sujets, et actuellement les réseaux sociaux font énormément de tort. Enfin je suis désolé, je vous dis, je passe pour un vieux crétin.
Non.
On a des sachants dans tous les domaines, qui savent mieux que
Mais vous êtes, j'arrive pas à savoir, vous trouvez que c'est bien ou pas bien ?
Ah mais je trouve que c'est pas bien, mais on peut rien faire contre le système.
Ah bah oui, vous êtes marrant, faut se battre quand même.
Je vous l'ai dit, il a fait preuve de clairvoyance et je le déplore. Mmh. Et je le déplore parce que c'était un excellent journaliste.
Bon.
Excellent journaliste.
Puis il n'en parlait pas au passé parce qu'il est un bon journaliste.
Je l'espère.
Il a fait le 18h ici et puis vous pourrez l'écouter à Télématin, mais il ne fera plus donc d'émission politique en pleine campagne présidentielle quand même. T'es journaliste sur une émission qui était majeure, en plus cette émission du service public. J'imagine que Thomas, il ne doit pas être très heureux de la séquence qu'il traverse.
Et il va manquer au paysage, avec l'esprit incisif qu'il pouvait avoir.
D'un autre côté, il est amoureux. Donc, il faut mieux être amoureux que poser des questions politiques, franchement.
Grand bien lui fasse.
Moi, je suis d'accord avec vous.
Il est au moins heureux de ce côté-là.
Voilà. Bon, écoutez, merci.
À bientôt.
Merci, monsieur Laurent. Merci.
Je vous en prie.
Bon, Olivier. Olivier dit monsieur Boubouk.
Exactement.
Puisque, j'ai eu du mal à m'y habituer quand même à vous appeler.
Oh, j'ai l'impression que vous avez bien aimé quand même. Hein.
Ouais, je trouve que c'est un peu trivial, mais bon, c'est.
Ça me représente
Laurent. C'est qui vous a baptisé comme cela.
Exactement.
Vous avez des messages?
Ah, ben bien sûr, c'est mon métier, Pascal. Vous les voulez?
Bah oui,
allez, on y va.
C'est le mien aussi de vous les demander.
Merci beaucoup. Sur nos réseaux sociaux, Sophie nous écrit: décision sage, effectivement, un journaliste doit être impartial. Anne, à l'inverse, nous écrit: c'est honteux d'en arriver là, les journalistes ne sont même plus libres dans leur vie privée. Et on termine avec Eric: pour lui, Thomas Soto prend une bonne décision, il n'aurait pas réussi à être neutre, selon lui.
Bon, ce week-end, Olivier, ça s'est passé comment?
Je devais faire un karaoké, Pascal, mais finalement, je suis allé me déhancher en discothèque.
Et
comme vous, jadis. Vous le faisiez à l'époque.
Jadis. Et alors, est-ce que la soirée a été intéressante?
Je suis rentré seul, Pascal, si c'est votre question, voilà.
Bon,
c'était. Merci à vous.
Et vous étiez dans la discothèque, vous étiez avec des amis ou?
Exactement, que des amis.
D'accord. Donc vous êtes allé avec des amis et vous êtes rentré seul.
Exactement. C'était ma soirée.
Il y avait des garçons, des filles avec vous,
De tout, Pascal, de tout, garçons et filles. Voilà.
Donc, vous étiez combien?
On était une petite dizaine.
Ah, une petite dizaine.
Quand même. Bon.
Bah écoutez, on va suivre toute cette année qui va être palpitante.
Ah, c'est sûr.
J'aimerais quand même
qu'on
ait une bonne nouvelle. Je ne sais pas ce qu'en pense Damien.
Je ne sais pas
si
ça arrive.
On attend tous les lundis avec impatience.
Il semblerait que c'est assez calme.
Ah, bon, très calme.
La boubouquisation est en route.
Comment dites-vous ?
La boubouquisation est en route.
La boubouquisation.
Bon, Jean-Alphonse Richard est là. C'est l'heure du crime et à 14h30.
Alors, 14h30, c'était il y a 22 ans, 99, l'affaire du docteur Muller. Sa femme est retrouvée morte dans une cave. On ne sait pas si c'est un meurtre ou un suicide. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans cette histoire, c'est que les experts vont prendre la main. Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas d'indice flagrant. Donc les experts, tout au long de cette enquête et tout au long des 3 procès qui vont suivre, je dis bien 3 procès, et on verra pourquoi dans l'heure du crime, tout au long de cette enquête, les experts vont se charger de dire leur vérité. Vérité parfois un peu qui hésite, qui patine, mais le fait est c'est que leur parole va être prise pour argent comptant. C'est un défaut, une qualité, on va le voir dans l'heure du crime. C'est le poids des experts. Mais c'est important en justice. Hein. Ils ont pris beaucoup, beaucoup d'importance ces dernières années, et effectivement, parfois, ça peut peser lourd, et ça peut même aller très, très loin. Avec l'affaire notamment du docteur Muller aujourd'hui, 14h30.
Qu'est-ce que la vérité?
Ah, la vérité, c'est comme, je vous disais tout à l'heure, l'honnêteté existe, mais l'impartialité, on n'y croit pas. Est-ce que la vérité existe? Un débat hautement philosophique que peut-être monsieur Boubouk pourra trancher.
Bien sûr. La vérité n'est jamais facile à dire, sinon tout le monde la dirait, disait Michel Audiard. Il est 13h58, ça va être le rappel des titres avec le flash d'Agnès Bonfillon dans une seconde.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. RTL.
Il est 14h. Le flash avec Agnès Bonfillon.
Le parquet national antiterroriste ne s'est pour l'instant pas saisi de l'attaque au couteau à Cannes, attaque à l'encontre de 2 policiers tôt ce matin par un homme de 37 ans de nationalité algérienne qui n'est pas connu des services de police et de justice. Les fonctionnaires sont choqués mais heureusement ne sont pas blessés physiquement, a dit Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, en déplacement dans la ville. Leur gilet pare-balles a clairement permis d'éviter le pire. L'assaillant, lui, a été visé par d'autres agents. Il a été hospitalisé précisé dans un état critique. Gérald Darmanin, hein, le ministre de l'Intérieur, se trouvait donc sur place à Cannes juste après cette attaque. La princesse Charlène de Monaco, de retour sur le rocher après plusieurs mois passés en Afrique du Sud, où elle a subi plusieurs interventions chirurgicales liées à une infection ORL. L'épouse du prince Albert a retrouvé le palais, sa famille, à commencer par ses jumeaux. Avis aux usagers de la SNCF en Alsace. Demain, une grève devrait fortement perturber la circulation des TER sur certaines lignes. Un seul train sur quatre circulera. En revanche, côté TGV, pas de difficultés annoncées pour l'instant. La météo sur la Corse, les perturbations vont encore durer demain. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, moins de nuages, mais passages nuageux de plus en plus nombreux et possibilité de pluie. Vers le Roussillon, le ciel va se couvrir demain après-midi. De petites pluies s'installeront. Sur la Bretagne, la Basse-Normandie et les bords de la Manche, ce sera le même scénario. Sur le reste du pays, en revanche, après une matinée très, très nuageuse, eh bien le soleil refera de belles apparitions. Demain matin, comptez un petit degré à Strasbourg, 2 à Belfort, 4 à Reims, 9 à Rennes, 13 à Marseille ou encore 15 à Ajaccio. Les courses à Vincennes pour le prix d'Arcachon, il fallait jouer le 9, le 16, le 15, le 5 et le 3, le 9, le 16, le 15, le 5 et le 3. Il est 14h02 sur RTL. La suite des auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Praud.
Merci Agnès Bonfillon, il est 14h02.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Nous parlons de Thomas Soto, notre excellent confrère de France 2 qui est passé par RTL et qui ne présentera pas l'émission politique Élysée 2022 de France 2. C'est le Parisien qui l'a annoncé. Il a expliqué que cette décision par le fait qu'il a une relation amoureuse avec la conseillère en communication du Premier ministre. D'ailleurs, les conseillers en communication sont considérés comme des hommes politiques dans les ministères. Ce ne sont pas des fonctionnaires. C'est une décision difficile et d'une certaine manière assez injuste, a-t-il dit. Mais je me dois de tenir compte de notre époque devenue très violente et qui a tendance à tout hystériser. Nous sommes avec Jean-Michel qui habite, qui est dans la Vienne, agriculteur. Bonjour Jean-Michel.
Oui, bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous.
D'abord, merci. D'abord, sa compagne a beaucoup de chance, ça, Thomas.
Ah ben, bah, j'imagine, c'est une bonne remarque.
Bah oui,
bien sûr.
Souvent, c'est plutôt les compagnes. Quand j'ai entendu ça, j'ai tout de suite pensé à Alain Juppé, qui avait aussi une, je ne sais pas si c'est son épouse ou sa compagne, qui était journaliste et qui, elle, a renoncé à sa carrière pour que Alain Juppé puisse avoir une activité politique. Et donc, là, le fait qu'il se soit retiré, c'est tout à son honneur vis-à-vis de sa compagne. C'est quand même à signaler. Et la deuxième chose, moi je trouve que c'est normal. On a beau dire, on est quand même influencé par les personnes que l'on aime. Autrement, on les aime pas. Autrement, c'est juste une petite passade d'un soir et puis c'est terminé. Mais à partir du moment où on aime quelqu'un, on l'aime pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle représente, pour ce qu'elle pense, pour ce qu'elle dit.
Donc, ce que vous me dites, c'est qu'il aurait été convaincu de... l'activité,
non,
de, en tout cas influencée sur la qualité de Jean Castex, par exemple, selon vous.
Oui, probablement.
Mais à la limite, à l'extrême limite, qu'il n'interroge pas Jean Castex, le jour où Jean Castex est sur le plateau, il dit, écoutez, ma compagne travaille avec lui, c'est pas convenable d'interroger. Mais en quoi ça change l'interview qu'il pourrait mener de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen?
Ben,
il ferait de la propagande pour Jean Castex dans son interview?
Non, mais il pourrait peut-être devenir un peu plus, mais un peu plus agressif vis-à-vis des personnes qui ne sont pas en accord avec les gens pour lesquels sa compagne travaille.
Oui, écoutez, franchement, on est à la marge. Hein. On est dans une société où on demande la transparence, où la suspicion existe.
Pascal.
Oui.
Pascal, il se met en parenthèse jusqu'à la fin des élections.
Mais sauf que c'est une année présidentielle. C'est,
oui,
journalistiquement, c'est quand même extraordinaire. C'est intéressant, cette période-là. Donc vous avez un journaliste politique qui ne peut pas travailler pendant l'élection présidentielle. Ça arrive une fois tous les 5 ans. Et puis alors l'année prochaine, si Jean Castex est toujours là, il pourra continuer? Moi, ça me paraît très étrange, mais bon.
Non, oui, je vous comprends, mais comprenez bien que nous, les électeurs, nous, les citoyens qui ne sommes pas en contact avec ce monde qui est très impressionnant, avec ces mondes qui sont très impressionnants pour nous, simples citoyens, qui sont le monde politique d'une part et le monde des journalistes d'autre part, parce que ce sont les personnes qu'on voit le plus sur dans les émissions d'information, qu'elles soient
Jean-Michel, j'entends ce que vous dites, mais
à partir de ce moment-là, si vous Thomas Soto, c'est mis en rapport avec l'impression qu'il pouvait donner de lui-même, mais également de Jean Castex. Moi, je trouve que c'est très courageux. Mais c'est pas pour lui que sa carrière est pas finie. Hein, dans 8 mois, il retrouvera une activité de journaliste normale. Il pourra interroger Jean Castex après les élections s'il est toujours en poste, et il n'aura pas forcément cette réputation d'influenceur. Une fois que les élections sont passées, on ne change plus les élections. Avant les élections, c'est une période extrêmement particulière.
Donc, en tout cas, c'est très argumenté ce que vous dites. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Je vous félicite, Jean-Michel, parce qu'effectivement, ce que vous dites s'entend. Moi, je ne partage pas tout à fait ça, mais j'ai toujours envie de défendre les journalistes. Quoique. Mais globalement quand même je les connais, évidemment nos confrères ils peuvent avoir des défauts, mais pour le coup je vous assure, il y a des journalistes que je connais qui sont infiniment plus militants et infiniment plus engagés, et c'est pas lié aux compagnons ou à la compagne avec qui ils sont, c'est parce qu'ils ont ça dans leur ADN, et puis ça peut transpirer à l'antenne. Merci Jean-Michel, on va poursuivre, on fera prendre un dernier auditeur sur Thomas Soto, et puis après on parlera peut-être du masque à l'école ou d'Alain Delon. Hein, on a la musique d'Alain Delon, hein. On va revenir avec tout à l'heure. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210, 50 centimes.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Film d'Henri Verneuil. Alors, vous pouvez voir ça ce soir. C'est un film qui a 50 ans. C'est exceptionnel, Le Clan des Siciliens. Donc, comme ça, Ventura, Gabin, Delon. Exceptionnel film. Ça dure 2h30. Il n'y a rien à changer. Scénario exceptionnel. Il joue Sartet. Sartet. Et Alain Delon a 86 ans. Donc si vous pouvez, si vous souhaitez lui rendre hommage et l'appeler, et nous appeler plutôt, eh bien n'hésitez pas. Et puis il y a cette musique d'Ennio Morricone. Philippe, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous.
Bah, merci à vous d'avoir sélectionné mon appel.
Quel est votre sentiment sur le retrait de Thomas Soto?
Eh bien franchement, bravo à monsieur Soto. L'amour l'emporte sur le confort professionnel. Franchement, j'y connais rien en politique, en ceci, en cela. J'écoute quand même M. Soto de temps en temps sur votre radio. À l'écouter, on sent immédiatement que c'est quelqu'un qui n'est pas incisif, qui est plutôt consensuel, c'est quelqu'un qui doit être très gentil dans la vie. Et quel plus bref.
Je vous le confirme parce que c'est un charmant confrère.
Ouais, preuve d'amour à sa compagne ou à son amoureuse, que de dire je me remets en retrait du boulot que je fais pour qu'on soit tranquille, pour qu'on soit pas constamment harcelé par les autres journalistes, etc., etc. Voilà ce que je voulais dire, tout simplement. En tout cas, Sarah.
Mais sur le fond, vous trouvez que c'est bien?
Ouais.
Pourquoi? Parce que vous auriez un sentiment de suspicion sur un journaliste si vous appreniez
suspicion.
Par exemple qu'il est avec une conseillère communication d'un homme politique important.
Pas de suspicion, c'est trop fort, mais forcément, si vous êtes la conseillère de Monsieur Mélenchon.
Mais par exemple, Léa Salamé, qui est mariée avec un député européen, selon vous, elle ne devrait pas non plus faire des interviews.
Alors, je l'écoute sur une autre radio, je l'écoute sur une chaîne de télévision. Les questions qu'elle pose... alors, elle, par contre, est un peu plus incisive, un peu pas méchante, je pense pas du tout. Hein, mais je ne sais même pas qui est son compagnon, voyez-vous. Moi, je suis un Français moyen, plus que moyen. J'écoute la radio, j'écoute RTL. J'ai appris en écoutant votre émission que M. Soto avait une compagne qui était conseillère de M. Castex. Bon. Mais par contre, il y a quelques années, vous avez un monsieur comme Duhamel qui s'était retiré parce qu'il avait dit du bien de M. Bayrou.
Exactement, il était RTL d'ailleurs, il avait dit qu'il voterait pour lui.
Ouais, et donc, vous voyez, et M. Duhamel, c'est quand même le référent dans le journalisme politique aujourd'hui. J'avais trouvé là aussi son action très honnête. Vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui... pourri, c'est pas le terme, mais c'est quand même vachement violent, surtout dans vos métiers. Dès que vous êtes exposé, vous êtes la cible de n'importe qui, n'importe comment. Aujourd'hui, c'est Monsieur Soto, bravo.
D'accord.
Il a eu le courage de faire ça, et je pense que sa compagne doit être très 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 fière de lui, et c'est une preuve d'amour plus que tout.
Eh ben, écoutez, c'est un message effectivement tel que vous l'avez vécu, analysé en tout cas cette séquence. Merci beaucoup Philippe, je crois qu'on va refermer peut-être ce débat sur Thomas Soto, et puis nous allons changer de sujet.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Thierry, les masques pour les jeunes gens dans Charente, vous nous appelez. Bonjour Thierry.
Bonjour Pascal, merci de prendre mon appel. Merci. Alors nous, on a de la chance. En Charente, on est passé à deux doigts apparemment. Donc les petits n'ont pas eu les masques. Mais c'est vrai que quand on a entendu cette information, quand on a été voir nos enfants qui sont âgés de 9 et 10 ans, quand on leur a annoncé qu'ils risquaient d'avoir les masques à la rentrée scolaire, ils se sont mis à pleurer et ils ne voulaient plus retourner à l'école.
Parce que vous-même, c'est vrai que moi, ce qui est terrible, c'est que les enfants, ils acceptent tout. Donc, comme vous-même, je devine que vous
n'êtes
pas pro-masque, vous ne les avez pas
non plus. Là, vous m'avez jugé un peu rapidement. Je suis ni pro ni anti-masque.
Pour
les jeunes, oui, complètement.
Moi, si j'avais des enfants de 5 ans ou 10 ans, ils comprendraient que je suis un anti-masque pour les gosses.
Moi, ce qui me fatigue, c'est qu'on fait supporter aux enfants ce que les adultes ne supporteraient pas. On va pas discuter de la transmission, de la non-transmission et tout ça. On en a assez parlé, on en a assez entendu. Tout le monde a son avis sur tout. Tout le monde est plus spécialiste les uns que les autres. Moi, j'écoute les épidémiologistes. Après, moi, mettre cette punition, parce que pour moi, c'est une punition sur les enfants, pour protéger une partie de la population qui refuse d'être protégée médicalement, c'est ça qui m'est un petit peu hors de moi, quoi. Parce que je le ressens comme ça, et c'est comme ça qu'il est. Parce que de toute façon, c'est pas l'info du siècle que je vais dire que les enfants ne risquent quasiment rien à 99% sur ce virus. Donc on dit quoi? On dit eux, on leur met le masque parce que ça va peut-être ralentir un petit peu la progression pour pas aller atteindre ceux qui veulent pas faire les protections pour finir en réanimation.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que on met un masque pour protéger ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. On met un masque aux enfants pour protéger des seniors qui veulent pas se faire vacciner.
Voilà.
C'est ce que vous dites. Vous avez pas tort.
Voilà. Et c'est ça qui me dérange un peu, c'est-à-dire que à ces adultes, je veux pas faire de leçon à qui que ce soit, je veux simplement dire, arrêtez avec les petits, quoi. Arrêtez de pénaliser nos enfants, laissez-les vivre ça fait 2 ans, les pauvres, 2 ans qu'on les prive de tout, de loisirs, de tout. Laissez nos enfants tranquilles. Prenez vos responsabilités. Vous voulez pas vous faire vacciner, c'est pas un souci. Mais mettez pas un masque sur la figure de mes enfants.
Ben, je suis pour les enfants, je trouve ça terrible. Les enfants de 6e, pas de 6e d'ailleurs. De CP. Les enfants de CP, c'est à deuxième rentrée, on leur impose de porter un masque. Je trouve que c'est terrible. Bon, merci beaucoup Thierry. La pause 14h17 et je pense que nous allons parler d'Alain Delon. Pourquoi pas? À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
J'imagine qu'il pense à cela dans sa retraite de douchy, coupé du monde d'aujourd'hui. Lui, l'ultime rescapé d'une époque enfouie. Il est le dernier des géants, la dernière star de sa génération. Les enfants des années 30 sont partis, Alain Delon est seul. Et ce rôle lui va bien, sans doute, seul, comme dans Le Samouraï, seul au milieu des autres. La solitude, non pas de l'ermite, mais la solitude peuplée. Depuis les larmes de la petite enfance dans les couloirs de la prison de Fresnes, jusqu'à ses 86 ans qu'il célèbre ce 8 novembre. Alain Delon n'a plus Jean-Paul Belmondo, Alain Delon n'a plus Mireille d'Arc, Alain Delon n'a plus personne, ni Romy, ni Visconti, ni Deray, ni Belleville. Bonjour Marc.
Hey, bonjour Pascal. Ah, je suis très heureux de passer, en plus pour cette personne extraordinaire. Moi, Delon, il fait partie des gens... on a l'impression que le mot star a été inventé pour ces gens-là, en fait.
C'est vrai, c'est très beau ce que vous venez de dire. J'avais jamais entendu ça nulle part, mais je trouve que cette phrase est magnifique. On a l'impression que le mot star a été inventé pour Alain Delon. C'est formidable,
Pour des gens de cette véritable stature, parce que c'est quelqu'un de bluffant. Il a une filmographie qui est extraordinaire. Moi, je suis très cinéphile, donc. Et puis, comme j'expliquais aussi à votre collègue, c'est qu'il se trouve que j'ai l'ami d'un ami qui a tourné avec lui dans une série des années 80 qui s'appelait Cinéma.
Et donc.
Il avait une réputation assez, vous savez, assez dure, Delon, quand même. Hein. Mmh. Et là, dans cette série, c'était que des jeunes acteurs qui jouaient avec lui. C'était lui, vraiment. Et il a été adorable. Adorable. Elle a dit, je suis tombé des nues parce que je ne m'attendais pas à ça du tout. Quoi.
Quels sont les films que vous préférez de Delon ?
Ah, je vais dire Le Clan des Siciliens qui passe ce soir, que j'adore, évidemment. Hein. Moi, j'ai bien aimé aussi le souvenir. En plus, vous voyez, il a tourné avec des cinéastes comme Terence Young, qui a fait Les James Bond. Il a tourné Soleil Rouge. Les Melville. Les Melville sont extraordinaires. Le Samouraï, Un Flic et tout ça. Oui, non, c'est... Mais il y en a trop. Il a tourné avec Joseph Losey. Il a tourné avec... Visconti, c'est extraordinaire.
Il est 14h23, je remercie parce que ça va être le débrief, mais vous avez cité toute une série de films qu'on peut voir. Il y en a un qui est peut-être plus méconnu que les autres, Un Flic, qui est le dernier film de Jean-Pierre Melville avec une lumière bleue. C'est la seule fois d'ailleurs où il a tourné avec Catherine Deneuve. Regardez ce film, Un Flic, c'est un film magnifique. Le débrief.
13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
Vous nous avez parlé ce midi de sécurité routière. Faut-il instaurer un examen médical pour les personnes de plus de 65 ans ? 75% des Français y sont favorables. L'avis de Samuel, 78 ans.
Moi, je me sens pas du tout moins performant, mais pas du tout. On croit toujours qu'on a 20 ans. Alors moi, je monte encore sur le toit de ma maison. Je vois des jeunes dans la rue qui ont 45 ans. Mmh. Ils sont beaucoup moins valides que moi. Moi, je les bats à la course à pied, ça c'est vrai.
Elisabeth a 72 ans et l'un de ses enfants a décidé d'agir.
Ma fille m'a enlevé mon permis de conduire.
Mais de quoi elle se mêle, votre fille ? Pourquoi elle a fait ça ?
Parce qu'elle a raison. J'ai une maladie assez difficile et il peut m'arriver de sortir avec de l'oxygène. Donc elle m'a dit « Maman, c'est non ».
Et sinon, que dit Colette, 89 ans ?
Et alors, qu'est-ce qu'il faut que je vous dise ?
D'abord, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Colette, ça va ?
Oui, ça va, je vous remercie.
Bon.
J'ai jamais eu de PV, j'ai jamais eu de point de retrait, j'ai jamais eu d'accident, j'ai heurté, je touche du bois. Elle m'a dit, l'ophtalmo, j'ai 9,5 sur 10.
Ah bon, ça va.
Bon, il y a une chose importante, hein, il faut être très précis sur son âge quand on est dans ce genre de débat.
Je dis votre âge, hein, parce que c'est important. Oui. Vous avez 69 ans.
Et demi.
69 ans et demi, c'est les enfants qui disent ça, j'ai 10 ans et demi.
Ah bah ça compte à partir de 69 ans et demi parce que dans 6 mois, ça, on passe un gros cap. Bah, et tous mes amis sont comme moi, à 70, on a un coup sur la tête.
Oui, soyons précis s'il vous plaît. Sinon aujourd'hui, Pascal, on sent que vous aviez envie de titiller l'ami Julien Courbet.
Monsieur Pro, comment allez-vous ?
Cher ami, finalement, le sous-pull, vous l'avez dans toutes les couleurs.
Exactement, de l'arc-en-ciel. C'est le même que je teins chaque jour.
Voilà.
Allez, au passage, on n'hésite pas à lancer un petit tacle. Alors attention. Attention quand même au retour de service.
Mais ça me fait plaisir de vous entendre parce que la semaine dernière vous n'étiez pas très aimable avec nous. Hein,
vous plaisantez ou quoi ?
On pouvait à peine se parler ensemble.
Parce qu'on n'était pas en direct, on ment à personne.
Ah bon ?
Mais non.
Ah.
Vous n'êtes pas aperçu. Bon. Moi je vous apprendrai d'autres petits trucs sur la radio.
Et aujourd'hui Pascal, vous m'avez l'air perturbé. Tiens, quelle est ma nouvelle identité ?
Pour le moment, c'est Laurent Soto.
C'est bien noté. Et Monsieur Boubouk, un nouveau surnom ?
Monsieur Guillaume.
Ah. Monsieur
Olivier.
Guillaume,
c'est Olivier. Monsieur Olivier.
Monsieur Guillaume, alors aujourd'hui c'est vrai, vous avez mis en avant une personnalité hors du commun, notre monsieur Boubouk.
Et puis c'est le dernier des géants.
Oui, je vous en prie, dis-nous en plus sur Olivier, le monsieur réseaux sociaux.
L'accident génétique.
Oh, quand même trop de compliments d'ailleurs. Où en est-il ?
L'instant culture de monsieur Boubouk.
Prenons des nouvelles de monsieur Boubouk. Qu'a-t-il fait ce week-end ?
Je suis allé me déhancher en discothèque. Et comme vous, jadis. Je suis rentré seul, Pascal, si c'est votre question, voilà.
Ah, dommage, on va suivre évidemment cette aventure. Un dernier mot avant de se quitter, Pascal.
Et plutôt, c'est l'ami Dingo.
Merci pour tout. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. Joyeux anniversaire, Alain Delon.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais que cette chanson aurait été enregistrée en une seule prise. Que Delon avait demandé de faire baisser la musique, faire baisser, pardon, la lumière, et qu'il l'a enregistré avec Dalida, et que c'est un classique, c'est exceptionnel, parole et parole.
Ne me regardez pas comme ça, Pascal.
Jean-Alphonse, bonjour.
Bonjour, 14h30, l'heure du crime, c'est tout de suite l'affaire du docteur Muller, quand les experts s'en mêlent.
À tout de suite, ami.
À tout de suite.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.